Et hier, on a commencé à voir une série, enfin, la série de hier et d'aujourd'hui. Et pour vous encourager à avoir une foi plus efficace. Le thème, c'est une foi agissante par l'amour plus efficace. Et pour avoir une foi plus efficace, c'est important de changer sa façon de penser. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a plus de liberté à faire la volonté de Dieu que notre propre volonté. Si déjà on arrive à croire en cette pensée-là, qu'il est tellement bon, que ce qu'il a pour toi et pour moi, dans la volonté qu'il nous demande de faire, il y a toujours plus de joie, de victoire, de paix, que de dire non, je ne veux pas faire ce que Dieu veut, je veux faire ce que je veux. On est pris au piège en croyant que être libre, c'est faire ce qu'on veut. La vraie liberté, c'est faire ce qu'il veut. C'est être libre de la domination du péché. Et je prie que ce matin, vous puissiez réellement recevoir. J'ai à cœur aussi à la fin de prier pour ceux, celles qui voudront. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Gloire à Dieu pour les témoignages de l'église, des églises filles, transformation. Et Rodrigue disait que l'année 2017 est une année d'activation, et c'est vrai. C'est une année de réforme où Dieu veut libérer la réforme au travers de son peuple, au travers de chacun d'entre nous. Et cette réforme, merci. Et cette réforme que Dieu veut amener au travers de son peuple dans la société pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel, va s'accompagner d'une effusion de l'esprit comme jamais. Et c'est important que vous puissiez recevoir ça. À la réunion à destinée, on termine en général souvent par un cours qui s'appelle Active. Il y a des groupes de jeunes et moins jeunes qui vont dans les rues. Le but est que l'Église exerce les dons et la puissance. Et les témoignages authentifiés, renvoyés au secrétariat, il y en a plein. De guérisons, de miracles. Et ce n'est pas l'affaire que du pasteur, des pasteurs ou de l'équipe pastorale. C'est l'affaire du peuple de Dieu. Parce que Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout simplement. Jésus n'est pas compliqué. Hein. Il est très simple. Donc j'ai prié et poursuivre le message d'hier soir avant de prendre un temps de ministère ensemble. J'espère vous libérer avec, comme on dit, un don de l'esprit qui va vous affermir dans votre foi. Père, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Jésus, dans la parole, tu as appelé l'admirable. Que ce matin, tous nous puissions t'admirer au travers de ta parole. Que ton esprit de révélation, de sagesse, vienne révéler à chacun des cœurs ici présents ô combien tu es admirable. Ô combien ta parole est juste incroyable dans la beauté, dans la majesté, la sagesse, la force, la créativité et la puissance de transformation qu'elle peut amener. Ta parole est créative. Elle crée, elle renouvelle. Elle ressuscite ce qui est mort. Elle donne de l'espoir. Alors merci Saint-Esprit pour ce que tu vas faire. Je m'attends à toi dans le nom de Jésus, Père. Amen. Alors regarde ton voisin et dis-lui, je t'encourage. Allez, regardez votre voisin, dis-lui avec foi. Dis-lui, je t'encourage à rendre ta foi plus efficace. Vous savez, la foi aussi, c'est déclarer. Donc, c'est juste un exercice, pas pour faire, pour réveiller. Non, non, c'est pour que tu déclares, déclarer à son voisin, dis, je t'encourage à rendre ta foi plus efficace. Et souvent, on prie pour avoir une foi qui augmente, et c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est rendre notre foi plus efficace. C'est possible. Je disais hier, tu as plus de foi qu'il n'en faut pour amener le triomphe et la victoire de Jésus-Christ dans ta vie et dans tes circonstances. Ma question, c'est est-ce que tu crois ? Que tu as la foi nécessaire pour faire la différence. Et dans Philémon 6, l'apôtre Paul écrit à Philémon et dit « Je demande à Dieu que la foi que tu as en commun avec nous soit efficace en tout pour faire mieux connaître tous les biens que nous avons dans notre vie avec le Christ. » Et Paul dit ici à Philémon, ce que je demande, c'est que ta foi soit efficace, Philémon, et qu'elle soit efficace en tout. J'aime une foi qui est efficace en tout. Et pas juste uniquement dans certains domaines. Pas juste uniquement pour être sauvé et aller au ciel, mais pour être transformé à l'image de Christ et amener le ciel sur la terre. Parce que c'est possible que son règne vienne sur la terre comme au ciel, parce que c'est son cœur. Et on avait vu deux vérités puissantes hier soir. Si tu crois comme tu penses et tu aimes comme tu penses, ta façon de penser limite ou délimite ta foi, la restreint ou la permet de s'étendre. Ta foi ne va pas dépasser le paradigme de ta façon de penser. Et pareil pour ton amour. Sandrine, mon épouse, en priant pour vous aussi ce week-end, me rappeler ce premier commandement que Dieu donne et que Jésus rappelle dans les évangiles, lorsqu'il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. » Cela parle que pour apprendre à aimer Dieu, il faut aussi apprendre à l'aimer avec notre pensée. Mais pas une partie de la pensée, avec toute notre pensée. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tu aimes comme tu penses. Et tu crois aussi comme tu penses. Et la pensée est le premier champ de bataille que nous devons renouveler pour avoir une foi efficace. Et le premier point qu'on avait vu hier, c'est une foi efficace ne se trompe pas de but. On n'a pas la foi pour faire de Dieu notre génie. On a la foi pour manifester son génie et démontrer sa souveraineté, sa puissance. La foi, ce n'est pas comme Aladdin gratter sur la lampe par la prière pour que Dieu fasse ce qu'on veut. La foi, c'est pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est pour que son règne vienne dans ton cœur. C'est pour qu'il y ait plus de ciel en toi et que cela soit manifeste au travers de toi. Et je vais reprendre Matthieu 6, 33, qu'on a lu ensemble hier. La parole de Dieu disait, dans traduite de la version Le Message, Jésus dit ici, ce que j'essaie de faire ici, c'est de vous amener à vous détendre. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa façon d'agir se tracassent pour les choses du monde. Mais vous, vous connaissez à la fois Dieu et sa façon d'agir. Laissez votre vie s'imprégner dans la réalité, les initiatives et la provision divine. Ne vous inquiétez pas de manquer de quelque chose. Vous verrez que tous vos besoins humains, j'aime bien ça aussi, tous vos besoins humains seront satisfaits au quotidien. Prêtez toute votre attention à ce que Dieu fait en ce moment et ne vous prenez pas la tête à propos de ce qui peut arriver ou ne pas arriver demain. Dieu va vous aider à gérer n'importe quelle difficulté qui se présente quand le moment viendra. Qui n'était pas là hier ? Vous pouvez lever la main hier soir. Waouh ! C'est pour ça qu'il faut que je fasse un rappel. Et ici, Dieu dit, mais ce que j'essaie de faire, c'est Jésus qui parle, c'est de vous amener à vous détendre. Ce que Dieu veut, c'est que ton âme arrive à se détendre. Qu'il arrête d'être stressé, opprimé, déprimé par les inquiétudes et les circonstances de la vie. Je disais, il veut mettre ton âme dans un spa spirituel. Et que tu écoutes la parole de Dieu, à l'écoute de sa parole, c'est les bulles de l'oxygène du ciel qui vient relaxer ton âme. C'est son cœur, c'est Matthieu 6, 33. Ne vous inquiétez de rien. Mais la traduction de la version anglaise de Message parle, mais ce que je veux faire ici, c'est vous amener à vous détendre. Et pour vous détendre, il dit, vous connaissez Dieu et vous connaissez sa façon d'agir. Et je disais hier, pour connaître sa façon d'agir, il faut d'abord connaître sa façon de penser. Parce que si tu ne connais pas sa façon de penser, tu ne peux pas connaître sa façon d'agir. Mais Dieu parle à nous, ses enfants, et il dit, mais vous, vous connaissez ma façon d'agir. Et donc, nous avons la pensée de Christ pour savoir comment il agit. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens. Il dit, mais nous, nous avons la pensée de Christ. C'est accessible, la pensée du ciel est accessible par Jésus-Christ. Et on a vu hier que ce qui souvent bloque la foi, beaucoup d'enfants de Dieu croient qu'ils sont sauvés, beaucoup d'enfants de Dieu réellement viennent à l'église, sont fidèles, mais la foi manque d'efficacité parce que la pensée n'est pas renouvelée. Et pourtant, quand Jésus a annoncé l'évangile dans la parole, il a repris le relais en annonçant ce que Jean-Baptiste annonçait en disant « Repentez-vous et croyez ». Dans Marc 1, par exemple. Il dit « Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle », Marc 1, 14. Et l'ordre est très important. Il ne dit pas « Croyez et repentez-vous ». Il dit « Repentez-vous et croyez ». Et le mot « repentant », c'est le mot « méta » en grec « néo », qui signifie, c'est composé de deux mots, « méta » qui signifie « changer, transformer », comme « métamorphosé ».« Méta » et « morphé », c'est « changer de forme ». Et là, « néo », ça parle de perception, de façon de penser. Ça parle de changer sa façon de penser pour recevoir la foi. Donc la repentance, ce n'est pas juste être attristé. La repentance, lorsque la parole de Dieu dit « repentez-vous et croyez », c'est changer sa façon de penser pour recevoir une foi plus efficace. La repentance, donc, est la porte d'entrée qui attire la foi. Elle nous prépare, elle prépare ton cœur à recevoir la foi. On a vu hier soir que la repentance, c'est aussi mettre ta tête sur le roc qu'est la parole de Dieu, aligner ta pensée sur sa parole. Et je vous encourage, si vous avez l'opportunité, je ne sais pas, Rodrigue, c'est possible d'avoir accès au message audio. Donc je vous encourage, je n'avais pas, et si vous n'étiez pas là hier, d'écouter les messages audio. Et vous allez voir ô combien c'est crucial, comme Jacob, de réaligner sa façon de penser, parce que la repentance recalibre ta perception de tes circonstances. La repentance n'est jamais accompagnée de regrets. Celui qui se repent est toujours rempli d'espérance et non pas de remords. Parce qu'on ne se repent jamais que de quelque chose, on se repent aussi pour quelque chose. On change sa façon de penser pour la remplacer par la pensée de Christ. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Et on a vu hier, on a terminé sur le fait que celui qui sait se repentir, non pas juste attristé d'avoir péché, mais celui qui, non seulement une fois qu'il est attristé, s'efforce de penser autrement pour recevoir la foi, celui-là se rend compte que la repentance ne gaspille jamais rien. La repentance est capable de transformer une tristesse qui produit la mort en une tristesse qui produit la vie. Et on avait vu ça hier. Elle est capable de faire en sorte qu'un enfant qui a souffert d'inceste, par exemple, et qui a produit la mort dans son âme pendant des années, mais lorsqu'il pense autrement et qu'il met sa tête sur le roc qu'est Christ, alors sa façon de penser les circonstances change. Et comme Joseph, il est capable de dire à ses frères, « C'est pas vous qui m'avez envoyé ici. » Parce qu'il ne voit plus les circonstances avec les yeux de la chair, mais il voit les circonstances avec les yeux de l'esprit, avec la pensée de l'esprit, avec la pensée de Christ. Et c'est pour ça que la repentance ne gaspille jamais rien, parce qu'elle est capable de faire en sorte qu'un enfant qui a vécu l'inceste, lorsqu'il pense comme Christ pense, à un moment donné se sert de son témoignage pour permettre à ce qu'il a vécu de libérer plusieurs. Je connais un précieux frère qui, aujourd'hui sur Paris, qui était à la réunion dans l'équipe et qui a vécu ce que je vous dis là. Un serviteur de Dieu extraordinaire, mais qui pourtant a souffert le martyr avec son papa. quand il était petit. C'est passé dans les journaux à La Réunion, c'était terrible. Mais en rencontrant Jésus-Christ, il s'est repenti, il a pardonné à son papa, il a pensé autrement. Et il devient un puissant témoignage. Et la tristesse qui a produit la mort, par la repentance, c'est une tristesse qui produit la vie. C'est pour ça que la repentance ne gaspille jamais rien. Elle ne gaspille pas tes peines. Elle ne gaspille pas tes erreurs. Elle ne gaspille pas tes échecs. Elle ne gaspille pas ta souffrance. Ne gaspille pas ta souffrance. Fais en sorte qu'elle serve à quelque chose. Fais en sorte qu'elle produise un poids de gloire en toi. L'apôtre Paul dit, car les légères afflictions du moment produisent en nous un poids éternel de gloire. Ne gaspille pas tes souffrances. Ne gaspille pas tes peines. Réaligne ta pensée sur la pensée de Christ. Et je disais hier, c'est comme Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Pourquoi toute chose concourt au bien? Ça signifie que Dieu ne gaspillera pas toute chose. Toute chose, il ne va pas gaspiller. Autrement dit, tu peux interpréter Romains 8, 28 par « Dieu ne gaspille rien ». Si tu crois, si tu l'aimes, si tu alignes ta pensée sur sa pensée. Et donc la repentance, c'est penser autrement parce que Jésus dit « Repentez-vous et croyez pour que la foi soit efficace ». Une foi agissante par l'amour, où on apprend à aimer Dieu avec toute notre pensée, et on apprend à penser comme il pense, pour avoir une foi efficace. Pour que cette foi-là soit efficace, nous devons d'abord apprendre à penser autrement. Mais la repentance, on a vu aussi hier, et c'est ma transition pour ce matin. La repentance, ce n'est pas uniquement changer de façon de penser, c'est changer de façon de croire. C'est pas pareil. Ce que tu crois à propos de ton passé, ce que tu crois à propos de ton futur, c'est ça qui fait la différence dans ta vie. C'est pas ton passé, comme j'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. C'est ce que tu crois à propos de ton passé. Et ce que tu crois va être filtré par ta façon de penser. C'est pour ça que Jésus dit « Repentez-vous ». Et croyez. Mais la repentance, c'est plus qu'une façon de penser, c'est une façon de croire. Et je vais vous prendre pour ce matin un exemple flagrant dans la parole de Dieu qu'on voit avec l'église de Galates. Dans Galates 3, l'apôtre Paul, au verset 1, il parle aux chrétiens de Galates et il dit « Mais Galates, mais qui vous a ensorcelé ?» Il leur dit « Mais qui a fait de la magie sur vous ?» Qui a fait du gris-gris? Qui vous a jeté une malédiction? Et au verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres efforts? Avez-vous souffert pour rien? Ne gaspille pas ta souffrance. Il leur dit, avez-vous souffert pour rien? Si du moins c'est pour rien, celui qui vous accorde l'esprit et qui a accompli des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous avez écouté la prédication de la foi? Paul ici dit, ouais, qu'est-ce qui se passe là les amis? Il dit aux Galates, il y a un souci. Et il continue sa plaidoirie dans Galates 4 et à Galates 5, verset 4, écoutez, là, ce qu'il dit est dur, ici à l'église de Galates. Et il dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow! C'est dur ça. Et là, Paul s'adresse à des chrétiens. Ici, il s'adresse à des chrétiens et il dit, non, c'est de la foi. Par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ou l'incirconcision, mais seulement la foi agissante par l'amour. Et Paul dit ici à l'église de Galatie, les chrétiens de Galatie, dit, mais vous êtes séparés de Christ. Je dis, est-il possible de venir à l'église tous les dimanches et d'être séparé de Christ? Me dit, est-il possible donc de venir à l'église tous les week-ends, faire l'école biblique et d'être déchu de la grâce? Il y a un souci là. Je prie pour que ça arrive à aucun d'entre nous. Je me suis dit, comment des chrétiens peuvent être séparés de Christ? Le mot séparé, c'est le mot grec kartageo, qui signifie rendre vain, inopérant, inactif, sans rendement, privé de force et d'influence. Annuler, abolir, rompre toute relation avec quelqu'un. Cela parle en réalité que la relation avec Christ n'a plus d'influence ni d'efficacité. La relation qu'on a avec Christ devient inactive. La relation qu'on pense avoir avec Christ est inefficace. Il dit ça aux chrétiens de Galates. Quand il dit vous êtes séparés de Christ, ça signifie que la relation que vous avez avec Christ est inefficace parce que c'est comme si votre relation est rompue. C'est inopérant. Et le mot déchu de la grâce, le mot déchu c'est le mot grec ekpipto, qui veut dire tomber, perdre une chose, perdre le pouvoir, perdre les avantages, perdre la force, perdre la puissance nécessaire pour tenir. Il est en train de dire ici, il dit à ses amis Galates, votre relation avec Christ devient inopérante, inefficace. Vous êtes déchus de la grâce signifie, comme votre relation avec Christ est inefficace, vous n'avez plus la force pour tenir. Vous avez trébuché de la force qui peut vous permettre de tenir. C'est terrible. Et pourquoi il leur dit ça? À cause d'une mauvaise façon de croire. À cause d'une mauvaise façon de croire. Je vous disais tout à l'heure, se repentir, ce n'est pas uniquement changer de façon de penser. C'est changer de façon de croire. Et ici, Paul dit aux Galates, il y a un souci. Votre façon de croire est inefficace, rend Christ inactif. Rend le Saint-Esprit inactif dans votre vie. C'est terrible. C'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Il veut que ta foi amène le succès, la joie, la paix dans ton couple. Il veut que la foi que tu as te fait triompher de l'adversité et des tempêtes de la vie. Il a dit, ce qu'il veut, c'est amener ton âme à se détendre. Il est venu nous donner la vie en abondance. Ce sera toujours de bonnes convictions qui va produire de bonnes actions. Toujours. De bonnes convictions va produire de bonnes transformations. Dernièrement, une sœur vient me voir, me dit, mais je ne sais pas, Steph, je ne sais pas ce que je dois faire, quelle est ma destinée, je dois faire ci, je dois faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à l'écouter, à l'entendre. Et je lui dis, ta question n'est pas bonne. Je ne sais pas, Steph, qu'est-ce que je dois faire? C'est plutôt, Steph, qu'est-ce que je dois croire? Parce que ta façon de penser là est erronée. Et dans Jean 6, Jésus donne cette réponse. Les disciples viennent le voir et lui disent, Maître, que devons-nous faire pour faire les œuvres du Père? Autrement dit, le plan de Dieu. Et Jésus répond, l'œuvre du Père, c'est que vous croyez. L'œuvre du Père, c'est que vous croyez. Et donc souvent, ce qui bloque nos percées, ce qui empêche la foi d'être efficace, c'est une façon de penser qui ne permet pas à ce qu'on se connecte avec l'efficacité du Saint-Esprit. Pourquoi est-il aussi important également de faire attention à sa façon de penser? Parce que celui qui surveille sa façon de penser pour toujours avoir une foi efficace veille automatiquement sur sa bouche et sur son cœur. Certains disent, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. Fais d'abord attention à ce que tu penses. Tu gagneras du temps. Pareil pour le cœur. Pareil pour la façon d'agir. J'agis mal. Souvent, ce qu'on pense est un trait de notre personnalité est en réalité la conséquence de mauvaises convictions passées. Ben, je suis comme ça, après c'est tout. Moi je dis ce que je pense et quand je dis la vérité. Voilà, prends la vérité dans les dents. Non, 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 Jésus a dit, dis la vérité avec amour, pas dans les dents. Et on pense parfois que, oh ouais, comme Pierre. Pierre à un moment donné dit à Jésus, moi, je ne travaille pas moi. Moi, eux, ils courent peut-être, eux, les autres disciples, mais moi, Pierre, le grand Pierre. Moi, te trahir? Jésus, je veux bien que tu aies Dieu, je veux bien. Je veux bien que tu aies Dieu, tout ça, le Sauveur et tout ça. Mais là, par contre, jusqu'ici, tu t'es pas trompé, mais là, tu te mets vraiment le poing dans l'œil. Quoi. Pauvre petit Pierre. Le soir même, il renie Jésus trois fois. Parce qu'il ne savait pas. Une partie de sa personnalité était bâtie sur de mauvaises convictions. Et ça nous concerne tous. Bienvenue à l'Église. C'est pour ça, si tu veilles sur ta façon de penser, ça sera plus facile de veiller sur ta bouche, ça sera plus facile de surveiller ton comportement et tes actions. Comment, ma question en préparant ce message, je me suis dit, mais comment démontrer que la repentance donc, est effective? Et Jean-Baptiste disait, portez, produisez du fruit digne de la repentance. Donc la repentance produit quelque chose. Elle produit quelque chose. Et dans Matthieu 3, 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Le mot produisez, c'est le mot grec poeio, et le mot digne, c'est le mot grec axios. Le mot poeio signifie fabriquer. Le mot axios parle en réalité de poids de gloire, de réputation. Cela signifie, écoutez bien ceci, produisez donc du fruit digne de la repentance, signifie fabrique à partir d'une nouvelle façon de penser un comportement qui révèle le poids de ta repentance. Fabrique à partir de la pensée de Christ que tu as reçue un comportement, une attitude, des actions qui révèlent le poids de ta repentance. Qui montre que là, la pensée que tu as, la conviction que tu as est enracinée en Christ. C'est le cœur de Dieu. La repentance, c'est changer de façon de penser pour rendre la foi plus efficace. Et Dieu veut qu'on se repente parce qu'on est à la découverte constante de sa bonté. La Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Que tu vois qu'il est bon, tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi bon que ça. Et tu penses autrement. Une foi donc qui doit être plus efficace, apprends à penser autrement. Et une foi, un autre point que j'aimerais voir avec vous ce matin, une foi qui veut être plus efficace, donc on a vu, se trompe pas de but. C'est pour révéler le génie de Dieu et pas faire de Dieu notre génie, c'est amener le règne. Une foi plus efficace, c'est qu'elle doit être imprégnée de l'amour de Dieu parce qu'il faut l'aimer toute sa pensée. Une foi plus efficace, c'est qu'il faut réaligner sa pensée, se repentir, ses pensées autrement pour avoir la pensée de Christ. Mais une foi plus efficace grandit dans la culture du risque. Une foi plus efficace grandit dans la culture du risque. D'abord, j'aimerais vous dire et vous rappeler ceci. Dieu est le créateur et l'auteur du risque. Dieu est un risqueur. Il aime le risque. Le risque fait partie de la nature de Dieu. Il crée la terre, le ciel, l'univers, la terre, et Lucifer est déchu. Il envoie où ? Sur terre. Il aurait pu l'envoyer sur Mars, ça nous aurait fait des vacances. Mais il envoie Lucifer où ? Sur terre. Pas un risque. Il continue, il crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et il fait l'homme avec une volonté libre, et il met deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il prend un risque. Il sait que comme les anges, une partie ont eu avec leur volonté propre et libre, ont choisi délibérément un tiers de se rebeller, en faisant l'homme avec une volonté libre, il y a le même risque. Et en plus, il met le petit test des deux arbres. Je veux dire, quelle idée aussi de mettre les deux arbres en plein milieu du jardin. Mets l'arbre de la connaissance du bien et du mal à la périphérie, caché. Non, il met en plein milieu. Il veut tester le choix, le risque. Et en plus, il met Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Où il y a aussi le serpent qui est là. Je ne sais pas, il aurait pu, je ne sais pas, mettre une barrière de feu et laisser le serpent à l'extérieur du jardin d'Éden. Il prend un autre risque que le père de la tentation, qui a créé la tentation, vienne tenter ce qu'il a fait avec une volonté libre. C'est du risque, ça. Dieu n'a pas peur de prendre des risques. Imaginez le fait de nous avoir choisis, il a pris un risque. Oh, je dis, quand le Seigneur m'a choisi, je fais, wow, là c'est, ouh, c'est risqué. Hein. Le fait de te choisir, il prend un risque. Il nous choisit, et la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et oui, il y a ce verset qui dit, dans Isaïe, Dieu ne partagera pas sa gloire à un autre. Mais dans Jean 17, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et il prend un risque de partager sa gloire avec toi. En mettant Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il sait qu'on risque de faire n'importe quoi avec. Il sait qu'on risque de prendre la gloire qu'il nous a donnée pour nous, la transformer en orgueil, faire comme si c'est nous les meilleurs. Il sait. Dieu est un risqueur. Il n'a pas peur de prendre des risques. Je dis, quand je me vois, je dis, ça c'est un risque. Il t'a choisi en prenant un risque. Nous ne pouvons pas avoir une foi plus efficace sans prendre des risques. Je parle bien ici des risques de la foi, d'accord ? Il ne faut pas confondre foi et présomption. La foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, elle démontre les choses qui existent déjà dans l'esprit. La présomption veut démontrer les choses qui n'existent pas. La foi veut amener à la réalité les choses qui existent déjà. C'est pas pareil. Je parle du risque de la foi. Je parle de cette foi qui vient de la communion avec Dieu, où tu entends le Saint-Esprit te parler, tu entends la parole te parler, parce que la parole ne peut pas être muette. Dieu est un excellent communicateur. C'est nous qui n'est pas sur le bon réseau souvent. Il faut régler la parabole de son cœur pour capter toutes les chaînes divines et entendre Dieu nous parler. Et ici, nous devons comprendre que la foi, prendre un risque de la foi, fait partie de grandir dans la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi implique une prise de risque. Dieu croit en toi. Plus que toi, tu crois en toi. Mais en croyant en nous, il risque qu'on le déçoive. Donc, pour être efficace dans la foi, il nous faut, en tant qu'enfant de Dieu, comprendre que le risque n'est pas ton ennemi. Le risque de la foi, encore une fois. Je ne parle pas de la présomption ou même de juste être positif et de faire des déclarations positives. Non, je parle de faire des déclarations de foi. Goliath a fait une déclaration positive sur David. David a fait une déclaration de foi. Devinez qui a gagné. Cette foi, parce que tu mets ta confiance en lui. Le ciel récompense celui ou celle qui prend des risques. Cela plaît à Dieu lorsque on prend un risque. Je vais vous traduire la parabole des talents, ici en français, dans la version Le Message, mais très intéressante. Matthieu 25. Dieu dit, prenez les talents, de celui donc qui n'a pas fructifié talent, et donnez-les à celui qui a risqué le plus. Débarrassez celui qui ne s'est pas mis en danger et celui qui a pris la solution de la facilité et qui n'a pas osé se mouiller en prenant un risque. Il n'a même pas perdu le talent, le gars, il l'a mis à la banque. Il a dit, non, moi je ne risque pas. Je suis dans mon confort. C'est bien. Je suis bien. Le talent, je le mets à la banque. Et cette version est forte. Il dit, mais prenez les talents et donnez-les à celui qui a risqué le plus. Débarrassez celui qui ne s'est pas mis en danger, celui qui a pris la solution de facilité et il ne s'est pas mouillé, celui qui n'a pas pris de risque. Les enfants de Dieu veulent grandir dans la foi, mais sans risque. Attention. On veut avoir une foi. Qui veut une foi plus efficace? Moi. Qui veut prendre un risque? Pas moi. Gloire à Dieu pour Pop Love. C'est un risque. Transformation, un risque. On ne peut pas dire je marche dans la foi et ne pas vivre une vie qui comprend la culture du risque. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand j'étais en Afrique du Sud, pendant un an, j'ai vécu en Afrique du Sud en l'année 2009. J'étais déjà pasteur, mais je ne faisais pas le ministère là-bas. Comme j'ai déjà dit ici, le seul ministère que je faisais dans l'église, c'était la clim. Il y avait 13 clims dans la salle et j'arrivais très tôt le matin. Je faisais bip, 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 bip. Mais je me disais, Seigneur, je fais la clim pour ton peuple et je vais la faire comme si c'était pour toi. Il vaut mieux faire la clim avec un cœur qui plaît à Dieu que prêcher avec un cœur qui ne plaît pas à Dieu. Tout simplement. Et comme je ne faisais pas le ministère dans l'église, je me suis dit, mais je n'ai pas besoin d'un pupitre pour prêcher la parole de Dieu. Et donc ce que je faisais, c'est que j'allais dans les rues et dans un grand centre commercial qui s'appelle Gateway, à Durban, et j'avais vraiment un mauvais anglais, toujours d'ailleurs, pas un très bon anglais, vraiment, comme on dit chez nous, un anglais casse-cassé, comme on dit, c'est vraiment, c'est pas le top anglais. Et du coup, je me mettais dans un coin du magasin, et je priais en langue tout doucement, et je regardais les gens passer, les gens m'ont regardé, ce gars-là est fou, je regardais les gens, et dès que le Seigneur me donnait une parole de connaissance, dès que le Seigneur me parlait sur quelqu'un ou me montrait d'aller voir quelqu'un, j'y allais, je préparais toute la traduction déjà dans ma tête de ce que j'allais lui dire pour que le Saint-Esprit le touche. Et beaucoup de gens se sont donnés à Jésus, sont venus à l'église. Franchement, il fallait vraiment que je prenne des risques et que je sorte de ma zone de confort parce que déjà mon anglais est naze. Mais je me suis dit, pourquoi avoir un pupitre pour prêcher la parole de Dieu? J'ai le Saint-Esprit, j'ai la parole, j'ai la foi, et bon, c'est bon. On y va. La clim, c'est pour l'église. C'est important de comprendre ça. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Écoutez bien ceci. Souvent, nous attendons que Dieu nous donne l'assurance ou la force avant de commencer à faire quelque chose pour lui. Mais en réalité, Dieu attend qu'on fasse quelque chose pour lui avant de nous commencer à nous donner la force. C'est-à-dire lorsque, souvent on attend que dire, Seigneur, j'attends que tout est parfait, que j'ai ta force pour y aller. Dieu dit, non, non, commence à y aller. Et je vais te donner la force. Commence d'abord, toi. Le Jourdain est en cru. Mets ton pied dedans d'abord, après je l'ouvre. Non, 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 non. Ouvre-le d'abord, après je mets mon pied dedans. Nous, on est comme ça avec Dieu dans l'adversité. Seigneur, regarde ma situation, elle est comme le Jourdain en cru. Comment je vais traverser cette issue? Et Dieu dit, commence à faire un pas de foi. Ok Seigneur, ouvre le Jourdain. Et Dieu dit, toi commence à mettre ton pied dedans. Ah non. Souvent dans nos prières, on demande à Dieu de faire ce que lui nous demande de faire. Et après, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et on dit, Seigneur, tu peux faire ça? Et lui, il dit, mais ça fait longtemps que je te demande de faire ça. Ah bon? Le risque de la foi, c'est important. Écoutez bien ceci. Quelques pensées que j'ai notées pour vous ce matin en priant pour vous, mettant à part pour vous bénir ce matin. Des pensées sur le risque. Écoutez ceci. Le risque est l'action qui prouve à Dieu que nous croyons vraiment. Le risque, c'est l'action que nous faisons en réponse au niveau de foi que nous avons. En d'autres mots, nous ne pouvons pas dire que nous avons, que nous vivons dans la foi sans prendre de risque. Écoute bien ceci. Le risque, c'est l'évidence que nous avons la foi. Le risque est une expression de la foi. Le risque est l'invitation qui permet à Dieu de faire éruption dans nos circonstances. Le risque est le chemin qu'emprunte le surnaturel pour changer le naturel. Le risque est l'action qui vient nous sortir de notre zone de confort afin de nous permettre d'apprécier son réconfort. Le risque est l'action qui vient dompter nos peurs. Parce que prendre un risque en général nous met tout de suite dans l'inconfort. Créo, on va le faire, on va le faire. On se demande pourquoi on va sortir du confort. Donc le risque est l'action qui vient dompter nos peurs. Le risque prouve à Dieu que tu veux dépendre de sa capacité et non de ta capacité. Le risque implique Dieu dans notre travail. Le risque attire la collaboration de Dieu comme un aimant. Le risque repousse les limites de l'impossible. C'est l'action qui transforme les impossibilités en possibilités. Le risque est l'action qui vient puiser et libérer ton potentiel surnaturel, le nouveau toi. Le risque permet à Dieu d'exploser sur la scène de ta vie. Le risque de la foi te fait devenir l'acteur du film que Dieu a prévu pour toi. Le risque est l'action qui vient mettre en évidence son existence, l'évidence de sa présence. Le risque invite Dieu à démontrer sa fidélité. Si vous ne comprenez pas, pour ceux qui veulent une foi plus efficace, et que vous comprenez pas que le risque, ben vous devez dire ok, d'accord. Dernièrement, on a changé de maison à l'île de la Réunion. Et je m'entends très bien avec mon propriétaire, c'est un pharmacien, il n'est pas encore converti. Mais on s'entend très bien parce qu'un jour, il y a eu la plomberie cassée chez nous. Et il est venu réparer et en discutant, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Depuis 8 ans, 10 ans, même plus, il essayait. Et je lui dis, en tant que pasteur, mon Dieu est un Dieu de miracle. Je dis, est-ce que vous me permettez de prier pour vous, pour que vous puissiez avoir des enfants? Je vais reprendre. Vous êtes où, ceux qui ont rien entendu? Rien entendu. Je vais parler plus fort. Je disais, en parlant du risque, qu'il y a... On a déménagé il y a quelques semaines de ça, en décembre, à La Réunion. Et mon propriétaire, l'ancien propriétaire, n'est pas quelqu'un de converti. Et il est venu une fois pour un dégât des eaux. On a discuté. Et dans la discussion, j'ai appris qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et lorsque j'ai appris qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que mon Dieu est un Dieu de miracles. Et ça faisait déjà 8 ans, même plus, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et je lui ai dit, mais moi je sais que cette prière va changer les choses. Par sa grâce. Et par sa grâce, à peu près un mois et demi après, il m'appelle. Et je suis un des premiers, c'est pas le premier qui l'appelle, moi son locataire, pour me dire, ma femme est enceinte. Ton truc là, ça a marché. Et il me dit ça, ton truc là, ça a marché. Et du coup, on a sympathisé. Et il veut venir à nouveau habiter en métropole et il vend sa maison. Mais comme on est locataire, on venait de signer le bail pour 3 ans. Et vous savez, en France, le locataire a quand même plein de pouvoir. Et il me dit, mais s'il veut vendre sa maison que je suis dedans, qui veut acheter une maison si le locataire reste encore 3 ans? Et pour habiter, il ne peut pas. Donc je lui dis, Alexandrine, écoute, t'inquiète pas. Dès que tu es un locataire, on te signe devant notaire qu'on s'en va. Et il me dit, mais vous vous en allez, même si vous n'avez pas de maison? Je dis, oui. Je dis, on s'en va, on signe, même si on n'a pas de maison. Je dis, donne-moi juste un délai pour trouver, c'est bon. Donne-moi un maximum 6 mois, c'est largement suffisant pour trouver une maison. À 6 mois. Et il a trouvé un acheteur, et franchement, notre grand défaut avec Sandrine, c'est qu'on était bien où on était, dans le confort, on n'avait pas trop envie de sortir, et du coup, on a attendu le 4 mois et demi avant vraiment de commencer à chercher une maison. C'est pas, je vous avoue, chercher une maison pendant un mois et demi, c'est pas l'idéal. Surtout quand tu sais pas où tu vas. Et début décembre, il me rappelle. Il me rappelle et il me dit, mais t'as toujours pas trouvé de maison? Et tu sais que la maison, l'acheteur, il la prend 1er janvier, quoi. Et je lui dis, non, j'ai toujours pas trouvé de maison. Et on était le 5 ou décembre, quelque chose comme ça. Il me dit, mais Steve, on est début décembre. Je dis, comment tu vas faire? Et là, je lui réponds tout simplement. Je lui dis, écoute, il s'appelle Philippe. Je lui dis, écoute, Philippe. Je lui dis, écoute, Philippe, j'ai la foi. Et là, c'était le silence au téléphone. Dans sa tête, il a dû dire, ce gars-là est fou. Je lui dis, quel drôle de locataire. Et 2 semaines après, on avait déménagé. Je l'appelle le 15, je me dis, ça y est, on a trouvé une maison, dans 2 jours, on est parti. Mais avec une paix. Parce que je sais qu'il est capable de s'occuper de tous nos besoins. Tous nos besoins. Je termine juste sur ce témoignage. Quand je parle de risque de la foi, c'est souvent... On va prier et si ça ne marche pas, on pense qu'on n'a pas la foi et que persévère dans la foi. Un jour, il y a un frère qui va dans la rue et il dit à des personnes qui sont là, qui passaient, « Excusez-moi, j'ai vraiment force le cœur de pouvoir prier pour vous. Est-ce que je peux prier pour vous ?» Et la dame fait « Oh, on est de passage ici, on n'est pas de cette ville. » Et franchement... Je vous aurais dit non, de ne pas prier pour moi, mais vous êtes la 3e personne ce matin qui vient me voir et qui me dit, est-ce que je peux prier pour vous? Alors, j'ai refusé les 2 premières personnes. J'ai refusé les 2 premières personnes. Mais 3 fois, je me suis dit, peut-être que Dieu a vraiment quelque chose à me dire. Et donc, je veux bien que vous puissiez prier pour moi. Et là, prier pour elle, donner sa vie à Jésus, extraordinaire moment, puissante parole de connaissance, tout ça. Mais les 2 premières personnes, elles ne seront jamais. cette personne-là a donné sa vie à Christ après. Mais s'il n'y avait pas ces deux premières personnes, la troisième personne n'aurait pas récolté. La troisième personne a récolté parce qu'il y avait deux premières personnes qui étaient prêtes à prendre un risque, mais qui n'ont pas vu le fruit. Mais ils ont participé au fruit. Et j'aimerais t'encourager à comprendre que le risque de la foi, oui, n'est pas toujours accompagné de résultats que tu espères. Mais un risque de foi plaît à Dieu. Plaît à Dieu. Tu es destiné à détruire les œuvres du diable. Par le risque de la foi, vas-y s'il te plaît. Vas-y. Jeune et moins jeune, allez-y. C'est comme, j'ai pris l'exemple des bébés ici. Je ne sais plus, je vais reprendre. Est-ce qu'un enfant, en général à 5 mois, marche ? À partir de quel âge il commence à marcher un enfant, un bébé ? 9 mois, 1 an, 10 mois, 11, 12, en fonction de la vigueur. Est-ce que l'enfant, à un moment donné, se dit « je vais marcher », puis il se met debout comme ça et court ? Déjà vu un enfant faire ça ? Vous priez pour lui. Si vous... Est-ce que vous avez déjà vu un enfant faire ça ? Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie, il prend la main, il tombe, il se relève. Et là, il arrive, il essaye. Et imaginez les parents qui regardent cet enfant qui essaye de marcher, qui tombe une fois, qui essaie une deuxième fois, qui tombe, et qui essaie une troisième fois, qui tombe, qui n'arrive pas, qui tient le mur, qui tombe, qui se prend le tapis. Et là, les parents qui regardent l'enfant et disent « Mais c'est pas possible, je crois qu'il n'est pas destiné à marcher. » Je veux dire, là, il faut faire une cure d'âme aux parents, quoi. Fais une relation d'aide aux parents. Tu dis pas. J'espère qu'il n'y a pas de parents qui, quand l'enfant commence à tomber une, deux, trois fois, qui dit oh, il n'est pas destiné à marcher, celui-ci. Non, l'enfant sait par lui-même que marcher est inscrit dans son ADN. Mais j'aimerais te dire, tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Libérer la puissance du royaume de Dieu est inscrit dans ton ADN. C'est inscrit dans ton ADN. Et lorsque tu essayes et que tu tombes, ça ne marche pas. Relève-toi. C'est inscrit dans ton ADN. Le Père céleste est surnaturel. Pour lui, le surnaturel est naturel. Et tu es son enfant. Et il nous a donné la foi pour qu'elle soit efficace, pour amener son règne sur la terre comme au ciel. Amen.